Amen.
Est-ce que je peux demander un pardon? Merci.
Bonjour à tous. Je m'installe. Je suis absolument heureux d'être avec vous ce matin. Je voulais vous remercier pour toutes les prières que vous avez faites en ma faveur. Pour donner un peu de contexte, donc le 24 mai, j'ai été opéré d'un disque intervertébral. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai été opéré d'un disque intervertébral, donc un de mes disques, c'est le coussin, un des coussins de notre colonne vertébrale. Le mien, il était en mauvais état, il fallait le remplacer. J'ai été réveillé le lundi 24, donc c'était mardi 24, par une infirmière vers 5-6 heures du matin. J'étais déjà rentré à l'hôpital la veille et elle m'a indiqué je devais faire une douche préopératoire. Il fallait se laver à l'isobétaline, c'était un peu bizarre, mais c'est important. Pour ceux qui travaillent dans le secteur médical, vous connaissez ça bien. Et j'ai pu avoir 30-45 minutes de temps de prière juste avant l'opération, très tôt au matin, et j'avais une paix absolument sereine. Je me rappelais les paroles d'un jeune le samedi avant à une réunion de jeunesse du côté de Mons, qui avait dit: Benjamin, je vois Jésus avec toi dans la salle d'opération. Et il y avait vraiment cette pensée qui était restée dans mon cœur, c'était que si quelqu'un va m'ouvrir le ventre, Jésus, il va être là, il va regarder ce qui se passe. Amen. C'était, et je me rappelle très bien, l'anesthésiste m'a endormi et m'a dit: Monsieur, choisissez un rêve. Et le temps que je pense à une réplique assez bien pour pouvoir lui répondre, j'étais déjà endormi et je me suis réveillé dans une salle de... Et l'infirmière me demande si tout va bien. Et directement là, j'ai senti les sensations dans mon pied qui avaient disparu. Parfois, elles étaient revenues, donc ça c'est vraiment bien. Elle m'a demandé si je savais où j'étais. J'ai répondu oui en levant le pouce. Le soir même de cette opération-là, donc je me suis fait opérer à 8 heures du matin. Je me suis levé, sorti de mon lit au soir. Le lendemain, j'ai reçu la visite d'un groupe d'une église. Et j'ai réussi à marcher jusqu'aux toilettes. Et le surlendemain, à nouveau, j'ai 48 heures après avoir été opéré de la colonne vertébrale, je suis sorti de mon lit pour aller faire j'étais marché dans les couloirs de l'hôpital avec la kiné. Et le lendemain encore, je suis parti de l'hôpital vu mes très bons résultats. Et ce genre d'opération, ça a de très très bons résultats, mais il est vrai que moi, j'ai démontré des résultats particulièrement positifs. Et je veux vraiment remercier le Seigneur pour sa protection, sa vision. Et le sentiment que j'avais vraiment dans cette salle, c'était: Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Si tu appartiens à Dieu, Dieu prend soin de toi. Si tu mets ta foi en lui, Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Alors, avant cette opération, je vais donner un peu de contexte à ce que je dis. J'ai appris que la mutuelle n'allait pas intervenir pour mon opération, car je n'avais pas 35 ans. Il faut 35 ans pour que la prothèse en titane qui est dans mon dos soit remboursée. Je devais donc payer 2000 euros de ma poche, plus ou moins 300 euros de frais d'hôpital. Et mon père, il avait souscrit il y a des années à une assurance hospitalisation. On remercie les papas pour penser pour nous. Et donc, ils interviennent à hauteur de 1200 euros. Et j'avais pas l'argent, mais j'ai demandé aux gens de prier à ce sujet-là. Et j'ai reçu vraiment un soutien vraiment incroyable de plusieurs personnes. Maintenant, j'ai plus ou moins 1000 euros, un peu plus de 1000 euros de dons. Donc, c'est vraiment formidable. Je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter que l'argent était déjà là. Et c'est extraordinaire de pouvoir se sentir totalement protégé par Jésus. Amen. J'avais cette conviction pendant l'opération, je le partageais, j'avais cette intime conviction que Jésus était dans la pièce, dans la salle opératoire, et qu'il vérifiait que tout se passait bien. Peut-être qu'il était derrière le chirurgien et disait: écoute, moi j'aurais pas fait comme ça, mais vas-y. Je suis certain qu'il était là. Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent, et c'est le thème de ma prédication d'aujourd'hui. Il a pris soin de moi pendant cette opération, et il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Je voudrais partir de l'histoire de Jonas dans la Bible, qui est très intéressante pour nous. Cet homme qui s'est fait manger par un poisson et qui est resté dans son ventre pendant 3 jours. L'histoire de Jonas, elle est toujours assez impressionnante, car elle est souvent centrée sur Jonas et qui décide de démissionner de son poste de prophète et d'aller loin de là où Dieu le voulait. Il est intéressant de voir que dans nos vies parfois, on a pris une décision, on s'est engagé dans quelque chose qui nous envoie à l'opposé de là où Dieu voulait nous emmener. Parfois ça arrive, ça peut être une décision commerciale. Moi je me rappellerai très bien, ça fait quelques mois que un ami à moi, on suit un dossier au niveau de la justice belge. Il avait 18 ans, c'était il y a très très longtemps. Il a fait une SPRL avec son père. Et cette SPRL s'est écroulée. Ils ont eu plus de 100 à 200 000 euros de dettes. Et il est dans une situation vraiment mauvaise qui l'affecte encore aujourd'hui. On a mis en place ce qu'on appelle une médiation de dette. Il y a 2 semaines, il a été absolument acquitté de toute poursuite judiciaire. Donc c'est vraiment Dieu qui l'a protégé dans toute cette opération-là. Et quand il regarde un peu sa vie, il dit à cause de cette mauvaise décision-là, moi je me suis retrouvé à l'opposé de là où Dieu voulait que je sois. Ça, c'est pas nécessairement une décision commerciale, ça peut être aussi une décision au niveau relationnel. On peut être dans une relation amoureuse, on peut être dans une relation avec quelqu'un. Je suis avec telle fille ou tel garçon et je sais intimement en moi que c'est pas Dieu qui veut ça pour moi, parce que la personne me traite pas bien, parce que c'est pas quelqu'un qui amène des bonnes choses en moi. Mais si on regarde l'histoire de Jonas, on peut se rendre compte que le fait que Jonas ait démissionné, c'est pas ça le centre de l'histoire. Non, le centre de l'histoire, en fait, c'est l'amour de Dieu et sa grâce infinie. Regardons un petit peu. Jonas était un prophète qui parlait au nom de Dieu. Il recevait des messages et devait les proclamer. Jonas reçoit le message qu'il doit aller dans une ville qui s'appelait Ninive, et pour aller dire aux gens de se repentir. Et Jonas décide de ne pas y aller. Alors, avant de tirer des conclusions, moi j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Parce que franchement, prophète de Dieu, c'est pas mal comme boulot, alors j'aimerais bien savoir pourquoi il l'a quitté. Parce qu'on a tous parfois reçu les instructions de Dieu, et ça nous est déjà arrivé de dire, moi je veux pas faire ça Seigneur. Alors lisons un petit peu. Un jour, le Seigneur adressa cet ordre à Jonas, le fils d'Amittai. Debout, va à Ninive, la grande ville, tu menaceras ses habitants en disant, le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa, là il trouve un bateau qui part pour Tarsis, il paie son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Tarsis, la ville dont on parle, elle est située à 4000 kilomètres de Ninive. C'est dans la direction opposée. Il fallait pas 8 heures d'avion pour aller là-bas. Les érudits pensent que si Jonas avait fini sa journée, il lui aurait fallu 1 an pour se rendre de là où il était jusqu'à Tarsis. Pour la géographie, il est en Israël et il veut se rendre dans le sud de l'Espagne. Ça nous situe un petit peu. Alors il prend un bateau à Jaffa, qui est au sud-ouest d'Israël, qui est maintenant la bande de Gaza. Il paie son bateau. Et cette histoire nous apprend 2 choses. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La première, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il nous parle. Dieu, il veut te parler, il parle à son peuple depuis le début, il parle à des gens, Dieu est quelqu'un qui communique. La deuxième chose, c'est que parfois, Dieu nous dit des choses qui nous plaisent pas, ou qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est la nouvelle moins bonne. Parfois, ça nous met au défi, en fait, c'est ça le problème. Dieu veut nous voir entrer dans notre meilleur, il veut vraiment le meilleur pour nous, il veut pas juste... Non, il veut vraiment nous voir entrer dans le meilleur. Alors, essayons un peu de comprendre notre ami Jonas. Ninive, c'était la capitale des Assyriens, qui est maintenant devenue l'Irak. Et les livres d'histoire nous disent que c'était vraiment des gens vicieux. Je ne suis pas raciste, mais les livres d'histoire nous disent que, à leur époque, si une nation entendait que les Assyriens de Ninive venaient leur faire en guerre, les gens préféraient se tuer que d'attendre que l'armée des Assyriens arrive. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Parce qu'ils savaient les pratiques, je vais vous passer les détails, si vous êtes intéressé, venez me voir. Je vais vous passer les détails, mais les pratiques de guerre, c'était absolument horrible. Voilà, pour ceux qui regardent Game of Thrones, on est en pire que ça encore, ne vous inquiétez pas. C'était vraiment des pratiques tellement horribles que les gens préféraient, je préfère me donner la mort que d'attendre que l'armée elle vienne nous écorcher, etc., etc. Alors maintenant qu'on sait cela, on commence à comprendre Jonas par rapport à sa décision. Si je dois contextualiser ça, imagine que demain Dieu vous dit, écoute, voilà, je reviens que tu ailles à Isis, dire que ce qu'ils font c'est pas bien. Isis, on dit comment? L'État islamique. Va voir l'État islamique et dis-leur que ce qu'ils font c'est pas bien, dis-leur de se repentir de leur voie. Voilà, si on devrait contextualiser. Si Dieu nous disait ça, on va y réfléchir 2 fois. N'est-ce pas? C'est quand même pas des gens recommandables. Alors maintenant, on comprend un petit peu plus notre Jonas. Parfois, en fait, on a de très bonnes raisons de ne pas obéir à Dieu. Par exemple, on peut avoir difficile à pardonner à quelqu'un. Et ça peut être tout à fait légitime. La personne nous a fait du mal, mais vraiment, elle voulait nous faire du mal, elle a mal agi, elle a triché. Et on a envie d'être en colère, on a le droit d'être en colère après, on a le droit d'être blessé. Et pourtant, Dieu sait que pour nous, il faut qu'on pardonne. Alors, il dit pardonne. Et nous, on dit, ah, non, je veux pas. J'ai raison. C'est une très bonne raison. Parfois, je me rappelle un ami, on parlait toujours de la dîme ensemble. Et financièrement, il avait difficile à donner sa dîme, et je voyais que ça travaillait son cœur, mais il sentait qu'il devait la donner. Et alors, pendant 2-3 mois, comme ça, il me parlait de la dîme, et il me donnait des raisons pourquoi il ne devait pas la donner. Moi, je ne disais pas grand chose, je ne disais rien, je pense que c'est une décision vraiment personnelle. Et au fur et à mesure, après, j'ai vu, ok, c'est bon, tant pis. Je la donne. Parce que je voyais qu'il y avait une pression sur son cœur. Il y avait une pression par rapport à l'argent. La dîme nous permet d'être vraiment libérés du pouvoir de l'argent. Ça peut être aussi la personne avec qui on est, on peut avoir des bonnes raisons d'être avec telle ou telle personne. Mais le problème, c'est que quand on se garde dans notre fierté, dans nos mauvaises décisions, on se limite dans notre connaissance de Dieu. On se limite dans qui Dieu est, car on ne veut pas être confronté à ce que Dieu nous demande. On ne veut pas être confronté à nos faiblesses. On ne veut pas sentir qu'on n'est pas aussi puissant, aussi fier qu'on pensait l'être. Le problème, c'est lorsqu'on s'éloigne de la volonté de Dieu, la seule direction finale, c'est vers le bas. Ça, c'est le grand problème. Dieu dit, moi, je voulais pas descendre, c'était pas la route que je voulais prendre, mais j'ai fini en bas. La chose qu'il faut savoir, c'est que le diable, il rend toujours la désobéissance facile pour nous. La route de la désobéissance, elle est toujours facile. C'est toujours plus facile de mentir que de dire la vérité et d'affronter les conséquences. Il y a toujours un bateau qui va être disponible pour aller dans la direction opposée de là où Dieu veut aller. Alors, il faut en être conscient pour pouvoir être préparé à ça. Lisons la suite. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent et la tempête est si forte que le bateau risque de le casser. Les marins ont peur, chacun crie vers son Dieu. Ils jettent à la mer tous les objets qui sont dans le bateau pour la rendre plus léger. Pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau et s'est couché et dort profondément. Le capitaine du bateau s'approche de lui et dit « Quoi, tu dors ? Lève-toi, crie vers ton Dieu. Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas. » Puis les marins se disent entre eux, pour connaître la responsable du malheur qui nous arrive, tirons au sort. Ils tirent au sort et le sort tombe sur Jonas. Alors les marins lui disent, notre malheur vient de toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici, d'où viens-tu, de quel pays et de quel peuple es-tu? Jonas répond, je suis hébreu et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, celui qui a fait la mer et le ciel et la terre. Puis il leur raconte son histoire, les marins ont très peur et disent, qu'est-ce que tu as fait là? En effet, maintenant ils savent que Jonas fuit loin du Seigneur et lui demandent, qu'est-ce que nous allons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? En effet, les vagues montent de plus en plus. Jonas répond au marin, prenez-moi et jetez-moi à la mer, ainsi la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi. Donc après ça, ils prennent Jonas, ils le jettent à la mer et la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur et lui offrent un sacrifice et lui font des promesses avec serment. Alors, on pourrait croire en lisant cette histoire que le but de la tempête, c'est de punir Jonas. Et on pourrait automatiquement assumer que tous les problèmes dans la vie, c'est Dieu qui les envoie pour nous punir. C'est absolument une pensée fausse. Le but de la tempête ici, ce n'était pas de punir Jonas, mais de le ramener à la vérité. Il allait vers une destinée qui n'était vraiment pas bonne pour lui. Et je vais expliquer pourquoi après. Dieu, il a vraiment pas besoin, c'est le dernier truc dans les raisons, que tu payes pour tes erreurs. Il faut savoir ça, il faut comprendre ça dans notre image qu'on a de Dieu dans notre tête. Dieu, il a pas besoin que tu payes pour tes erreurs. Il a payé pour tes erreurs il y a 2000 ans sur la croix, alors il a pas besoin qu'on vienne repayer pour. Mais Dieu, il voulait utiliser Jonas pour ramener tout un peuple complètement perdu vers lui. La tempête était là pour l'aider. Parfois, il y a des tempêtes dans nos vies et il y a notre nom qui est écrit sur la barque. On s'en rend bien compte. Parfois, Dieu veut parler à travers nous, à des gens qu'il a mis dans la vie. Et la suite de l'histoire nous provoque des questions. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et cette histoire, elle est souvent centrée sur le poisson. Alors le poisson, il devait faire cette taille-là. Ça devait être un cachalot, au moins, pour qu'il puisse respirer. Puis il a dû rester 3 jours, il devait faire autant de mètres. Et le problème, c'est qu'on s'est tellement concentré sur ce poisson qu'on rate l'histoire. Alors on va oublier le poisson cette fois-ci, ça va? Si Dieu a créé la terre et le ciel, et j'ai des amis scientifiques, donc j'aime beaucoup les questions scientifiques qui essaient de comprendre comment Dieu fait les choses, mais pour nous ici ce matin, on va oublier le poisson et on va revenir à Jonas. Il est dans le ventre du poisson, et là Jonas, il abandonne. Il abandonne totalement, mais il abandonne pas sa vie, il abandonne sa fierté en fait. Il dit oui à Dieu, et au milieu du ventre du poisson, il commence à prier Dieu. Ceci est un indice que Jonas, il connaissait Dieu. Il savait que Dieu ne lui voulait pas de mal, il savait que si il appelait Dieu, Dieu allait répondre. Il pourrait croire, s'il connaissait pas Dieu, ok, moi j'ai pas fait ce que Dieu voulait, il m'a envoyé un poisson, moi je sers un Dieu qui est plein de vengeance, plein de colère, je vais me faire taper la figure. Mais pourtant, il abandonne sa fierté et il commence à louer Dieu. Il dit, Seigneur, je te loue. En Matthieu 12, chapitre 12, 38 et 41. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et lui dirent à Jésus, Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. Il lui répondit, génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe et de signe, il ne sera donné que le signe du prophète Jonas. De même en effet que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits, du même le fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Et il y a ici un homme plus grand que Jonas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jonas, il a été 3 jours dans le ventre du poisson à cause de sa désobéissance. Jésus, il a été dans le ventre de la terre à cause de notre désobéissance. C'est pour ça qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Après 3 jours, le poisson rejette Jonas car Dieu lui donne une deuxième chance. Et peut-être on lit cette histoire et on se rend compte, en fait, je suis dans le ventre du poisson. Là. Je suis pas bien. Je vais pas dire que tu es dans le ventre du poisson, mais il est possible qu'une mauvaise décision financière, une mauvaise décision de vie t'ait amené là où tu es. Ou peut-être même, parfois ça arrive, on se retrouve pris dans la tempête de quelqu'un d'autre. Ces mauvaises décisions nous ont des répercussions sur nous. Et enfin bref, on est mal. Quoi. Et la première chose à faire, il faut changer notre perspective et savoir que Dieu s'occupe de ceux qui lui appartiennent. Jonas, il commence à louer Dieu du ventre de la bête. Ceci, c'est un peu un truc fou, hein, c'est un peu fou si on y réagit, mais l'attitude de Jonas, elle change à travers la prière. Tu ne te sens pas assez disposé à louer Dieu, commence à prier. Tu vas voir, ça va disposer ton cœur. Parce que quand tu invoques Dieu, tout en toi qui n'aime pas Dieu, tout ce qui est notre chair, c'est soumis à la volonté de la croix et ça avance. Si on loue le Seigneur pendant qu'on a des problèmes, tes louanges vont devenir des problèmes pour tes problèmes. Si tu loues le Seigneur pendant que tu as des problèmes, tes louanges vont devenir des problèmes pour tes problèmes. Psaume chapitre 8, verset 2. Les enfants gargouillent des louanges vers toi, des enfants crient tes louanges qui noient les paroles de l'ennemi et qui silencent les balbutiements des athées. Quelle force de pouvoir s'appuyer sur Dieu. Je la sais qu'il peut s'appuyer sur Dieu, toi aussi tu peux t'appuyer sur Dieu. Alors le Seigneur donne cet ordre au poisson, rejette Jonas sur la terre et aussitôt le poisson obéit. Au chapitre 3. Une deuxième fois le Seigneur dit à Jonas, debout, va à Ninive, la grande ville, annonce-lui le message que je te donne. Alors Jonas se lève, il part, mais cette fois il va à Ninive comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande. Il faut 3 jours pour la traverser. Jonas entre dans la ville, il marche pendant 1 jour entier. Il annonce aux gens, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal. Il met un habit de deuil. Il s'assoit sur la cendre. Puis le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans les villes ces paroles. Il est interdit aux habitants, aux bêtes, bœufs, moutons, chèvres, de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait, Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Deux choses sur ce passage. Dieu, il est totalement souverain. À partir du moment où il y a trop de mal qui est fait, on peut voir qu'il intervient personnellement. Mais la deuxième chose pour moi qui est le plus choquant, c'est que Dieu, il attend le moindre soupir de repentance de notre part pour pouvoir agir. Si on regarde que le mal que ont fait ces Assyriens, ces gens de Ninive, et leur réponse, 3 jours de jeûne, pendant 3 jours ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, on pourrait penser que c'est totalement disproportionné. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il attend le moindre signe de repentance dans le cœur pour pouvoir sauter dessus et dire, ok, je suis là. J'interviens. Je ne vais pas te faire du mal, je vais faire ton bien. La chose extraordinaire dans cette histoire, c'est que malgré que le détour que Jonas il a pris, il a quand même accompli sa destinée. Nos mauvaises décisions ne vont jamais nous empêcher d'atteindre la destinée que Dieu a pour nous. Peu importe les mauvaises décisions qu'on prend, ça ne va jamais empêcher à Dieu de pouvoir accomplir sa volonté dans notre vie. C'est quand même rassurant, ça. Moi, j'ai déjà pris des mauvaises décisions. Je sais pas pour vous. Mais de me dire que ces décisions, je suis pas enfermé dedans, que c'est pas ça qui va me condamner, mais que je peux avoir un espoir, aller vers la suite. Je trouve que c'est une pensée qui donne la vie. Parfois, alors qu'on est au milieu de cette tempête, on est consumé par notre colère et notre tristesse. Envers nous-mêmes, envers les autres, et on se retrouve un peu paralysé. Si on regarde Jonas, il ne s'est pas apitoyé sur son sort dans le ventre du poisson. Il n'a pas commencé à dire « j'ai tout raté, c'est fini pour moi », il n'est pas entré en dépression. Non, il a fait « je confie mon destin en Dieu ». Alors pour conclure, je voudrais bien rappeler, Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Si toi tu as fait un détour, c'est pas grave, reviens à lui. Si tu es dans la tempête, appuie-toi sur Dieu. Dieu, il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Alors bien sûr, l'appel directement après ce genre de message, c'est « est-ce que tu appartiens à Dieu ? Est-ce que tu as la conviction dans ton cœur « moi j'ai misé mon destin sur Dieu ?» C'est une question tout à fait personnelle que chacun doit répondre pour soi. Mais merci Seigneur parce qu'il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Ça m'a bien compris ensemble. Père, je veux te remercier pour ta parole qui nous éclaire, qui illumine le sentier, Seigneur. Je te remercie pour cette histoire de Jonas qui nous apprend que tu es un Dieu plein de grâce. Je te remercie parce que de la même manière que tu as eu compassion pour les gens de Ninive, tu as compassion pour nous, Seigneur, des gens qui ont péché. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est dans une tempête en ce moment. Dans le nom de Jésus, je veux proclamer ta souveraineté dans leur vie, Jésus. Et dire que toi, tu es plus grand que toutes les tempêtes, Jésus. Et qu'une parole de ta bouche, eh bien, la tempête, elle s'arrête. Je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment agir dans les cœurs également, que tu puisses venir sauter sur n'importe quel espoir qui existe dans les cœurs. Que tu es présent. Jésus, on te remercie parce que tu es tellement bon. Seigneur, s'il y a des vieilles tempêtes qui nous poursuivent encore, on veut s'appuyer sur toi. On veut dire à quel point tu es merveilleux, Jésus. À quel point, eh bien, on compte sur toi. On sait qui tu es. On commence à te louer même si on est au milieu de cette tempête, Jésus. Et on sait que la victoire est proche pour nous. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les tempêtes desquelles tu nous as délivrés, Seigneur. Je te remercie d'avoir gardé pendant cette opération, pour toutes les prières qui ont été faites, Seigneur. Merci parce que tu prends véritablement soin de ceux qui t'appartiennent, Jésus. On te rend gloire pour ça, parce que tu pourvois financièrement, émotionnellement, physiquement, Jésus. Tu es là, tu es présent. Seigneur, on veut se repentir si on a commis des mauvaises actions envers toi. On veut proclamer ton message et ton royaume dans la vie et aux gens autour de nous. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Amen. S'il y en a 2-3 qui veulent élever la voix, n'hésitez pas à prier. Merci Seigneur Jésus.
Thank you. Amen.
Merci. Et merci pour le chat qui se rapproche.